Guillaume Bucconi, donc, qui est docteur en philosophie de l'université d'Aix-Marseille, qui a défendu une thèse où il s'est spécialisé justement sur les questions de méréologie, à la fois sous l'aspect métaphysique et sous l'aspect logique, et qui a continué donc à travailler au sein du groupe du séminaire de métaphysique, du SEMA, séminaire de métaphysique analytique dirigé par le professeur Jean-Maurice Monnoyer à l'université d'Aix-Marseille. Et donc aujourd'hui, il va nous parler du phénomène du vague et de l'ontologie des objets matériels.
Merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas besoin de micro.
Ah si, il y a besoin d'un micro.
Pour l'enregistrement.
Ok, ça va. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Tircelin et Jean-Baptiste de m'avoir invité, et Madame Grand-Cyr pour l'organisation, qui est vraiment très très bien. Donc merci beaucoup à tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est premièrement proposer une définition des objets matériels, alors que je vais assumer, que je ne vais pas défendre. Ensuite, examiner rapidement ce qu'est le phénomène du vague, puis proposer une typologie des ontologies des objets matériels en fonction des principes de composition que ces ontologies acceptent. Enfin, les examiner assez rapidement, une par une, et montrer que il y a deux ontologies, deux types d'ontologies qui répondent au phénomène du vague, qui sont le monisme d'existence, c'est-à-dire la théorie sur laquelle il existe un seul objet matériel, ou ce que j'appelle l'ontologie explosive, c'est-à-dire chaque région d'espace-temps contient un objet matériel. Ce sont les deux seules ontologies qui résistent au phénomène du vague. Donc si tout ce que j'ai fait là tient debout, pour l'instant, je crois que ça marche, enfin pour l'instant, hein. Ça voudrait dire que il existe soit un seul objet matériel, un simple, soit il en existe autant qu'il y a de régions d'espace-temps. Bon, alors je commence. Par objet matériel, j'entends une entité concrète, particulière, non conventionnelle et non vague. Alors, par entité concrète, j'entends une entité qui occupe l'espace-temps. Par une entité particulière, j'entends une entité qui occupe un et un seul lieu à un moment. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que j'entends par entité non conventionnelle et entité non vague. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour définir ce que sont les entités concrètes et particulières. Donc je passe aux objets non conventionnels. Alors, la distinction entre objet conventionnel et objet non conventionnel que je développe ici est largement inspirée par les travaux de Mark Heller dans son ouvrage « The Ontology of Physical Objects ». Alors, on a deux façons de caractériser l'identité, les conditions de persistance et d'existence d'un objet. Soit ce sont nos conventions qui permettent de caractériser cela, soit c'est la structure du monde qui permet de caractériser cela. Donc on va définir un objet conventionnel comme un objet, on va dire qu'un objet est conventionnel si ce sont nos conventions qui nous permettent de déterminer les critères d'identité, de persistance et d'existence de cet objet. Et on dira qu'un objet est non conventionnel si c'est la structure physique du monde qui permet de déterminer cela. Alors, par convention, j'entends d'une manière très générale une création humaine, une décision qui dépend du langage, de la perception ou encore de la connaissance des choses. Et par structure physique du monde, j'entends à l'inverse quelque chose d'entièrement indépendant de l'esprit. Donc un objet conventionnel serait un objet dépendant de l'esprit. Dans le sens le plus large du terme, un objet non conventionnel serait un objet indépendant de l'esprit. Alors j'ai un petit exemple qui n'est pas de moi pour définir ce que sont les objets conventionnels, mais que j'aime bien, qui est de Eli Hirsch, qu'il a développé dans Physical Identity. Alors Eli Hirsch dit « On peut construire un langage dans lequel le mot « voiture » serait remplacé par deux mots, « voiture dedans » et voiture dehors. Et on peut fixer les critères d'identité de ces voitures dedans et de ces voitures dehors comme ça. Alors, le terme voiture dedans s'appliquera à toute voiture qui est dans un garage. Et lorsqu'une voiture sera en partie dans le garage et en partie dehors, le terme voiture dedans s'appliquera à la partie de la voiture qui est dans le garage. À l'inverse, le terme voiture dehors s'appliquera à toute voiture qui est à l'extérieur d'un garage. Et lorsqu'une voiture sera en partie dans le garage et en partie dehors, le terme voiture dehors s'appliquera à la partie qui est en dehors du garage. Ensuite, on peut fixer le critère de persistance des voitures dedans et des voitures dehors. Lorsqu'une voiture dedans sort du garage, sa taille diminue progressivement jusqu'à ce que cette voiture cesse entièrement d'exister, alors qu'une voiture dehors commence à exister et grandira progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la même taille et forme originale que la voiture dedans. Alors, cet exemple, c'est pour montrer que les voitures dedans, voitures dehors, sont des objets conventionnels, dans le sens où ce sont nos conventions qui nous permettent de déterminer leur identité. Ce n'est pas une nouvelle découverte sur la structure physique du monde qui va nous faire accepter l'existence de ces objets. C'est juste un changement dans nos habitudes. Donc les voitures dedans et les voitures dehors dépendent de notre langage, de nos décisions, en un mot, de nos conventions. Un autre trait caractéristique de la conventionnalité, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire le fait que des personnes se mettent d'accord pour accepter certaines propositions comme vraies. Cet accord est arbitraire dans le sens où il est une création humaine, une décision, une stratégie déterminée par des choix, des caprices ou des préférences humaines. Donc un objet conventionnel est un objet arbitraire dépendant de l'esprit. Donc une fois que cette distinction est faite, j'assume qu'un objet matériel est un objet non conventionnel, qui ne dépend pas de nos décisions et de nos conventions et qui existe indépendamment de nous. Enfin, un objet matériel est un objet non vague. Alors, j'ai pas le temps d'analyser dans le détail ce qu'est le vague, c'est très compliqué. Monsieur Neff a fait un livre dessus. On a parlé en fait, plusieurs fois. J'aimerais montrer que pour comprendre en fait ce phénomène, on peut partir d'un problème que j'appelle le problème Unger-Ehler, qui est le problème de la décomposition. Prenons cette table, ici. On imagine que cette table est composée d'un nombre fini d'atomes. On dira que le prédicat table s'applique à la collection d'atomes qui composent la table. Maintenant, imaginez que j'enlève un par un les atomes de cette table. Donc le processus est le suivant. Au début du processus, qui consiste à enlever des atomes de la table, les propositions N atomes composent la table sont vraies. Si j'enlève un atome de cette table, elle existe encore. Le nombre de collections, la collection de particules compose encore la table. À la fin du processus, les propositions N atomes composent la table sont fausses, quand il reste deux atomes. Il n'y a plus de table. Et en même temps, il n'y a pas de transition nette, franche, qui nous permette de passer des propositions vraies aux propositions fausses. Autrement dit, il n'y a pas de frontière précise entre la dernière collection d'atomes qui compose la table et la première collection d'atomes qui ne compose plus la table. D'où la question suivante. À partir de combien d'atomes enlevés, la collection d'atomes cesse de composer la table et par là, la table cesse d'exister. C'est une version du paradoxe Hoorite. Donc, le problème, le phénomène du vague, intervient parce que il semble qu'il ne puisse pas y avoir de réponse à cette question et pourtant il est nécessaire qu'il y ait une réponse à cette question si la table existe. Je prends un peu d'eau, s'il te plaît. On a deux possibilités pour résoudre ce problème. Deux solutions principales. En fait, il y en a plus. Mais bon, il y en aura deux là. La première, c'est d'accepter le vague ontologique. Selon cette théorie, le vague est une caractéristique du monde lui-même. Dire que le monde est vague, c'est dire que les objets soumis au problème de la décomposition n'ont tout simplement pas de frontières précises. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas répondre à la question. Il n'y a pas de frontières dans le processus de décomposition car les objets n'ont pas de frontières précises. La seconde solution est d'accepter le vague linguistique. Alors, selon cette théorie, le vague n'est pas une caractéristique du monde, mais du langage que nous utilisons pour le décrire. Donc, pour le dire simplement, les objets du monde ont des frontières précises. Le monde n'est pas vague, mais à un moment du processus de décomposition, nous ne pouvons pas assigner un statut aux objets, car le prédicat « est une table » est un prédicat vague. Ce que j'accepte ici, c'est, comme Lewis, la théorie linguistique du vague. Alors, il y a de nombreux arguments contre la théorie ontologique du vague, que je vais pas les développer ici. On pourra en parler si vous avez des questions, mais je crois que j'ai fait un truc trop long, donc il faut que je raccourcisse. Donc ce que j'accepte, c'est que les objets matériels... Alors je vais dire quand même un mot entre le vague et la conventionnalité. J'accepte qu'un objet matériel est un objet à la fois non conventionnel et non vague. Mais en réalité, il y a un lien entre le vague et la conventionnalité. Comme le souligne Heller, le vague est une marque ou un indice de conventionnalité, au même titre d'ailleurs que la coïncidence. Lorsqu'un objet est soumis au vague, lorsque nous n'arrivons pas à déterminer précisément ses frontières, la seule solution que nous avons est de préciser la signification des termes mis en jeu, si l'on accepte la théorie du vague linguistique. Par exemple, le terme « table » est un terme vague, et c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à déterminer les frontières spatio-temporelles d'une table. On va donc alors préciser ce terme en disant « est une table », c'est être une collection de n atomes où n est un nombre entier. Le problème qui se pose alors, c'est comment on peut déterminer ce nombre? Est-ce que la structure physique du monde nous donne la réponse à cette question? Ben, je pense que non. Je pense que le choix de ce nombre est en réalité complètement arbitraire, conventionnel et qui dépend de notre convention. Donc lorsqu'un objet est soumis au phénomène du vague, nous pouvons affirmer que cet objet est conventionnel et, si on accepte ma définition, qu'il n'est pas matériel. Alors, ce que j'aimerais faire, si vous acceptez tous cette définition des objets matériels, ce que j'aimerais faire, c'est montrer maintenant comment ce phénomène du vague impacte les différents types d'ontologie matérielle qu'on peut avoir. Pour classer les ontologies matérielles, je pense que la solution la plus simple, si on veut en faire une typologie, c'est d'utiliser le principe de composition. Alors, comme vous le savez, les théories de la composition sont développées dans le cadre, en métaphysique contemporaine, de l'ouvrage de Peter van Inwagen, Material Beings, et de la question spéciale de la composition. La question spéciale de la composition est la suivante: quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un ensemble, une collection de X, X étant une variable plurielle, satisfasse le fait qu'il y a un objet composé de ces X? Donc ça, c'est la question. Et un principe de composition, c'est une réponse à cette question. Il y a trois types de réponses à cette question. Premier type de réponse, ce qu'on appelle la composition restreinte. Il y a des cas où les X composent un Y, il y a des cas où les X ne composent pas de Y. Donc, un principe restreint de composition est un principe suivant lequel il existe à la fois des cas de composition et à la fois des cas de non-composition. En d'autres termes, il y a certains cas où des entités sont liées entre elles par un principe et composent une autre entité, et certains cas où ces entités ne sont pas liées par ce même principe et donc ne composent rien. Deuxième type de réponse, le nihilisme de la composition. Cette théorie, c'est la suivante: les X ne composent jamais rien. Donc, il n'y a aucun cas de composition. Dernier type de réponse à la question spéciale de la composition, l'universalisme de la composition. Cette réponse, c'est les X composent toujours une nouvelle entité. Donc, dès que vous avez deux entités, vous avez une troisième entité composée par ces deux premières. Alors, je pense que les principes de composition ne sont pas des théories ontologiques. Par contre, je pense qu'à partir d'un principe de composition, on peut en déduire, on peut peut-être impliquer une théorie ontologique. Et c'est comme ça que j'ai fait une typologie des différentes théories ontologiques. Alors, selon moi, ça prend en compte à peu près toutes les variétés de théories ontologiques sur les objets matériels. On peut toutes les rentrer dans cette typologie, en forçant un peu, mais peut-être que j'en ai oublié, sûrement. Les deux types principaux de théories ontologiques qui découlent, qui sont impliquées par la composition restreinte, sont ce que j'ai appelé l'ontologie du sens commun, ou l'ontologie des objets ordinaires, et l'organicisme. Les deux types de théories découlant du nihilisme de la composition sont ce que j'ai appelé le nihilisme ontologique, d'un côté, et le monisme d'existence, de l'autre. Et enfin, le type de théorie découlant de l'universalisme de la composition est ce que j'ai appelé l'ontologie explosive, qui est un terme de Sosa. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous décrire cette théorie, et je vais vous montrer, essayer de vous montrer comment elles sont impactées ou non par le phénomène du vague. Alors, par le label, je commence par les ontologies qui découlent du principe restreint de composition. L'ontologie du sens commun et l'organicisme. Par le label ontologie du sens commun, je désigne les théories ontologiques qui acceptent l'existence des objets ordinaires, c'est-à-dire les objets qui peuplent notre monde quotidien. Selon le sens commun, il existe une pluralité d'objets avec lesquels nous interagissons, que nous utilisons, ou plus simplement avec lesquels nous vivons. Des objets naturels inanimés, les montagnes, les pierres, les lacs, les étoiles, les planètes, des artefacts, les chaises, les maisons, les ordinateurs, les micro-ondes, des organismes vivants, les plantes, les animaux. Tous ces objets sont définis comme des objets ordinaires. Alors, ils ont plusieurs caractéristiques. Souvent, on considère qu'un objet ordinaire est une entité matérielle, composée, tridimensionnelle, et qui change. Il existe une pluralité de théories appartenant à cette ontologie du sens commun. Donc, pour citer quelques auteurs, je pense à Becker, Elder, Eli Hirsch, Ned Markosian, Thomasson, Koslicki, tous ces auteurs ont en commun d'accepter des théories ontologiques qui acceptent l'existence des objets ordinaires à l'aide d'un principe de composition restreint. Je vais vous donner un petit exemple qui est celui de Koslicki. Alors, Koslicki propose la réponse suivante. Elle a une théorie de la composition restreinte. Elle affirme « Certains objets, M1, M2, M3, composent un objet O, d'une certaine sorte, une sorte K, uniquement dans le cas où M1, M2, M3 satisfont les contraintes dictées par certains composants formels associés avec les objets de la sorte K. » Ça signifie que, pour Koslicki, un objet a deux types de composants. Les composants formels et les composants matériels. Les composants matériels sont analogues à la matière aristotélicienne et les composants formels sont analogues à la forme aristotélicienne, même si Koslicki se place dans un cadre non téléologique. Les composants formels sont ce qui individualise la matière pour former des unités spécifiques. Donc la réponse de Koslicki peut être résumée ainsi: pour qu'il y ait un objet composé d'une certaine sorte, il faut que les composants matériels de cet objet satisfassent les conditions imposées par les composants formels de cet objet. Ces conditions vont être ce qui va faire que l'objet composé est un objet d'une sorte spécifique. Donc c'est bien un principe restreint de la composition, puisque les composants formels activent ou n'activent pas la composition d'un objet. Donc, à partir de cette composition restreinte, Koslicki développe une ontologie des objets ordinaires. C'est-à-dire qu'il existe un micro, un téléphone, un organisme vivant, les objets ordinaires. L'autre théorie qui découle de la composition restreinte, c'est la théorie de Peter van Inwagen qu'on appelle l'organicisme. Alors, van Inwagen accepte aussi un principe restreint de la composition, qui est le suivant: les X composent Y si et seulement si Y est un organisme et l'activité des X constitue la vie de Y, ou s'il y a seulement un X. Selon cette réponse, deux objets composent un nouvel objet si et seulement si leur activité constitue la vie d'un organisme. Dans tous les autres cas, ils ne composent rien. Le terme X, dans la théorie de Peter von Wagen, fait référence au simple ontologique, les entités sans partie propre. La théorie qui découle de cette réponse, c'est la suivante. Les seules entités qui existent sont les organismes vivants et les simples ontologiques. Chez von Wagen, il n'existe que deux types d'entités matérielles, les organismes vivants et les simples. Les tables n'existent pas, les montagnes n'existent pas, le micro n'existe pas. Donc, ces deux types d'ontologie qui découlent d'un principe restreint de composition, l'ontologie du sens commun et l'organicisme, sont impactées par le phénomène du vague, et notamment par un argument qui a été développé par Lewis et repris par Sider, que je vais vous proposer ici. L'argument Lewis-Sider montre que les partisans de la composition restreinte se doivent d'accepter le vague ontologique, sous peine de contradiction. Alors, je vous explique rapidement l'argument. Ce qu'on appelle un cas de composition, c'est une situation qui implique une classe d'entités à un moment donné, et pour laquelle nous pouvons déterminer qu'il y a composition. De la même façon, un cas de non-composition est une situation qui implique une classe d'entités et pour laquelle nous pouvons déterminer qu'il n'y a pas de composition. Ensuite, il faut imaginer une série continue de cas qui est une série finie de cas de composition dans laquelle tous les cas immédiatement adjacents sont extrêmement similaires en ce qui concerne les caractéristiques importantes à la composition. Et pour finir, une coupure brute dans la série est une paire de cas adjacents dans laquelle il y a un cas de composition connecté à un cas de non-composition. On reprend l'exemple de la table. Vous imaginez des collections d'atomes qui correspondent à un cas de composition, et vous imaginez ensuite une collection d'atomes qui correspond à un cas de non-composition. Il doit y avoir une série lorsqu'on enlève un atome un par un. Et il n'y a pas de coupure franche, nette, dans cette série, qui nous permet de passer d'un cas de composition à un cas de non-composition. L'argument de Lewis-Sider est le suivant. Si la composition est restreinte, première prémisse, premier principe, si la composition est restreinte, alors il doit y avoir une paire de cas connectés par une série continue, telle que dans certains cas la composition apparaît, mais dans d'autres la composition n'apparaît pas. Principe 1. Second principe, il n'y a pas de coupure brute dans l'apparition de la composition, de coupure nette. Troisième principe, soit la composition apparaît nettement, soit la composition n'apparaît pas nettement. Alors, l'argument c'est le suivant. Supposons que la composition soit restreinte. Alors, d'après le premier principe, il y a une série continue de cas qui connecte un cas de composition à un cas de non-composition. D'après le principe 3, il y a une coupure nette, brute, dans cette série continue de cas. Coupure qui est interdite par le principe 2. Donc, l'argument, il y a contradiction, et l'argument consiste à dire la composition n'est pas restreinte. La solution pour répondre à cet argument, c'est de rejeter un des trois principes. Le premier principe est difficilement réfutable. Il affirme que si la composition est restreinte, alors il y a dans une série continue de cas un cas de composition connecté à un cas de non-composition. C'est le principe même de la composition restreinte. Le second principe consiste à dire qu'il n'y a pas de coupure nette, de transition franche entre un cas de composition et un cas de non-composition. Il est défendu par Lewis et par Sider en disant que cette transition serait métaphysiquement arbitraire. Pourquoi la situer ici plutôt que là? Donc les partisans de la composition restreinte, s'ils veulent résoudre ce problème, doivent rejeter le principe 3 et donc accepter le vague ontologique. Si nous vous... ce que l'argument signifie, c'est que si vous acceptez la théorie, une théorie restreinte de la composition, si vous acceptez l'existence des objets ordinaires, si vous, ou en tout cas si vous dites que les objets ordinaires sont des objets matériels, je ne vais pas parler d'existence parce que c'est un autre problème, si vous dites que les objets ordinaires sont des objets matériels, vous en faites des objets vagues, d'après cet argument. Donc, ce qu'accepte Peter van Inwagen ? Peter van Inwagen accepte un principe restreint de la composition, accepte l'argument et affirme, oui, les organismes vivants existent. Ce sont des objets matériels, mais ce sont des objets vagues. Le coût de cette théorie, c'est d'accepter le vague ontologique.
Il me reste combien de temps, là ?
Ok. D'accord. Donc, toute théorie ontologique fondée sur un principe restreint de la composition ne permet pas, n'est pas conciliable avec une définition des objets matériels comme non vagues. Je vais passer maintenant au nihilisme ontologique. Le nihilisme ontologique est une théorie qui a un certain succès actuellement, qui est défendue, soutenue notamment par Siandor, Rosen, Jeffrey Grupp, Kamp ou Ted Sider. Alors, l'ontologie du nihilisme ontologique est très simple. Il n'existe pas d'entité composée. Les seules entités que le monde contient sont les simples, c'est-à-dire les objets sans partie propre. Les tables, les pierres, les molécules, les montagnes, les planètes, les chats, les arbres, les organismes vivants, tout ça n'existe pas. Il n'existe que des simples. Je ne me prononce pas sur cette théorie ni sur ce que sont les simples. C'est quand même quelque chose de compliqué à définir. Seulement, le nihilisme ontologique, s'il veut, puisqu'il nie l'existence des objets composés, s'il souhaite rendre compte de ce que nous disons lorsque nous affirmons, par exemple, que le chat est sur le tapis, alors que ni le chat est nul, ni le tapis n'existe, s'ils veulent rendre compte de cette proposition, sont obligés d'adopter une méthode qu'on appelle la méthode de la paraphrase. La paraphrase est une façon de réécrire les propositions du langage ordinaire, propositions qui font appel à des termes de substance ordinaire, en propositions qui ne contiennent plus de tels termes. Donc cela consiste simplement, comme le disait Achille hier, à remplacer les termes de substance ordinaire par l'expression « les simples arrangés à la façon de ». La proposition du langage ordinaire « le chat est sur le tapis » sera donc paraphrasée en « les simples arrangés à la façon d'un chat sont sur les simples arrangés à la façon d'un tapis ». Cette méthode permet de réécrire les propositions du langage ordinaire de telle façon que nous ne faisons plus référence qu'à des simples ontologiques. Donc, selon le nihiliste, ça permet d'éliminer les objets complexes et d'avoir une sémantique qui permet de rendre compte de la vérité des propositions concernant le monde ordinaire, en utilisant uniquement des simples ontologiques. Ce que je pense, c'est que le nihilisme ontologique... Alors, l'avantage de cette théorie, c'est que elle n'est pas soumise à l'argument Lewis-Sider. En effet, elle refuse le premier principe, le principe 1, selon lequel il y a des cas de composition connectés à des cas de non-composition. Vu que pour un nihiliste, il n'y a que des cas de non-composition. Les cas de composition, ça n'arrive jamais. Seulement, je pense que cette théorie est elle aussi soumise au phénomène du vague. Pour deux raisons simples. La première raison, c'est que parler d'arrangement de simples au lieu de parler d'objets composés réintroduit le phénomène du vague. C'est-à-dire à partir de quel moment on va dire qu'une collection de simples sont arrangés à la façon d'une table. On peut reformuler exactement le même argument Lewis-Sider par rapport aux objets composés, on peut exactement le reformuler vers les arrangements de simples. Ces arrangements de simples sont en fait eux-mêmes soumis au phénomène du VAT, tout comme les objets composés qui sont censés remplacer. Le deuxième point, qui est un peu plus discutable, c'est... Je pense que... un simple est aussi une entité conventionnelle, tout comme les objets matériels, tout comme les objets ordinaires. Pourquoi ? Parce que on a vu que le phénomène du vague apparaît lorsque nous ne pouvons pas déterminer de façon précise les frontières des objets matériels. Dans l'exemple de la table, on ne peut pas déterminer précisément quelle collection d'atomes compose la table. Mais ce phénomène apparaît parce qu'à un moment donné, la table perd des atomes et on ne peut plus savoir quand est-ce qu'elle existe. Seulement, ce paradoxe de la décomposition est en réalité un cas particulier d'un paradoxe du changement. La perte de parties n'est qu'un cas particulier de changement. Les objets n'ont pas besoin d'avoir des parties pour changer. Prenons un exemple de pensée d'un simple ontologique, disons un quark, n'importe lequel. On peut poser la question suivante. Parmi les changements que ce simple subit, lesquels sont substantiels et lesquels sont accidentels ? Est-ce qu'un quark peut changer de spin et continuer d'exister ? Continue-t-il d'être ce quark ou devient-il une nouvelle entité ? Pouvons-nous déterminer de manière arbitraire, de manière non arbitraire, les frontières temporelles d'un simple ? Je pense que cette question que les nihilistes posent aux partisans d'une ontologie des objets ordinaires, on peut leur poser quant à leurs objets à eux, au simple. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Alors, je vais sauter la théorie du monisme d'existence et je vais passer directement à ce que j'ai appelé l'ontologie explosive. C'est un choix purement arbitraire. Alors, le terme ontologie explosive a été employé par Sosa dans Ontological and Conceptual Relativity and the Self. J'utilise ici ce terme pour désigner un ensemble de théories qui affirment que toute région de l'espace-temps contient un objet matériel. Ce type d'ontologie est défendu diversement par Quine, Jubien, Mark Heller ou encore Alan Seidel. Alors, tous ces philosophes défendent des versions particulières de cette théorie. Cependant, ce qui m'importe ici, c'est de mettre en lumière les points communs entre toutes ces versions. Points communs qui nous permettront de faire émerger une définition commune des objets matériels. Alors, pourquoi un objet matériel, c'est un agrégat matériel contenu dans une portion quelconque d'espace-temps, aussi éparse et discontinue soit-elle. C'est sa définition d'un objet matériel. Pour Heller, un objet matériel, c'est un morceau de matière quadridimensionnelle. Et un morceau de matière quadridimensionnelle, c'est le contenu matériel d'une région de l'espace-temps remplie. Enfin, pour Jubien, un objet matériel est du stuff, de l'étoffe, si on veut, étalé plus ou moins irrégulièrement et plus ou moins densément dans l'espace-temps. Vous voyez que la définition commune des objets matériels ici, c'est en fait occuper une région de l'espace-temps. Être le contenu matériel qui occupe une région de l'espace-temps. Alors, toutes ces théories de l'ontologie explosive ont en commun quatre caractéristiques. Le substantivalisme, ou le substantialisme pour le dire en français, l'universalisme de la composition, le quadridimensionnalisme et l'essentialisme méréologique. J'ai presque fini. Je vous définis ces quatre théories, je vous explique pourquoi ça répond au phénomène du vague, et après, j'arrête de vous torturer. Le substantialisme, il existe... Selon le substantialisme, il existe deux sortes de substances distinctes, l'espace-temps et les objets matériels. Ces deux sortes de substances sont liées par une relation fondamentale d'occupation. Donc il faut considérer que pour le substantialisme, l'espace-temps est une substance, les objets matériels sont un autre type de substance, il y a une relation d'occupation entre les objets matériels et l'espace-temps. Pour le quadridimensionnalisme, un objet persiste en perdurant, c'est-à-dire en ayant des parties temporelles. Donc un objet matériel est un objet quadridimensionnel, il persiste dans le temps en ayant des parties temporelles. L'universalisme de la composition est la théorie selon lesquelles deux entités composent toujours une troisième entité. Et enfin, l'essentialisme mérologique, c'est la thèse selon laquelle tout objet possède ses parties essentiellement. L'essentialisme mérologique implique donc que la perte ou le gain d'une partie entraîne la fin d'existence de cet objet et la création d'un nouvel objet. En d'autres termes, tout changement de partie est un changement substantiel. Donc on peut définir l'ontologie explosive comme suit. Il existe deux types d'entités, l'espace-temps et les objets matériels, qui occupent cet espace-temps. Toute région d'espace-temps, quelle qu'elle soit, contient un objet matériel. De plus, les objets matériels possèdent leur partie spatio-temporelle essentiellement. En effet, comme le quadridimensionnalisme est accepté, l'essentialisme mérologique est valable à la fois pour les parties spatiales et les parties temporelles. Donc non seulement tout changement de partie spatiale d'un objet, comme par exemple le retrait d'une molécule ou d'un atome, entraîne la fin d'existence de cet objet, mais en plus tout changement de partie temporelle d'un objet entraîne la fin de son existence. Ceci revient à dire que tout objet a ses frontières spatio-temporelles essentiellement. Donc ce type d'ontologie échappe au phénomène du vague, car elle accepte à la fois l'universalisme de la composition et l'essentialisme mérologique. L'universalisme de la composition implique que toute région d'espace-temps contient un objet matériel. L'essentialisme mérologique implique que tout objet matériel possède ses parties essentiellement. Donc, tout changement est un changement substantiel. Donc, la perte d'une molécule entraîne la fin de la table. Alors, si tout ça, ça tient debout, c'est-à-dire que si les seules ontologies qui permettent d'échapper au phénomène du vague sont le monisme d'existence dont je n'ai pas pu parler et l'ontologie explosive, cela signifie que on peut faire une affirmation étrange qui est que soit il existe un et un seul objet matériel simple, soit il existe autant d'objets matériels qu'il y a de régions d'espace-temps. Merci.
Merci beaucoup.